Voilà, bonjour à toutes et à tous, que Dieu soit béni. Je crois que dans les annonces tout à l'heure, il vous sera dit pourquoi je suis ici. Et alors, je ne le fais pas par moi-même. J'aime beaucoup ce cantique qui a été chanté, le dernier. Tous d'ailleurs, je les ai aimés. Hein? Voilà, un en particulier. Et dans la dernière strophe, moi, en suivant le livre de Job, j'aurais changé la dernière phrase. Parce que nous chantons « Il est à moi ». Je suis à lui. Ça, c'est ce que dit Job au départ. Mon bien-aimé est à moi, je suis à lui. Mais après, il dit, je suis à lui. Et il est à moi. Il progresse. Quand je dis, il est à moi, c'est tout centré autour de moi. Quand je dis, je suis à lui, tout est centré autour de lui. Vous voyez la nuance? Et vous remarquerez combien de nos prières, de nos louanges, sont sur moi, pour moi, parce que tu m'as béni, parce que tu as fait ceci, tu as fait ça. N'est-il pas vrai? Alors qu'en réalité, nos louanges devaient être portées vers lui, ce qui le réjouit, lui. C'est ça le culte d'adoration que Dieu attend. Lui, le premier, le centre, tout est fait par lui, pour lui. Tout a été créé de par lui. C'est Jésus. Nous ne sommes rien. Mais il est tout. Et nous avons la grâce de lui appartenir, à lui soit toute la gloire. Hein? J'aimerais ouvrir la parole de Dieu, justement, dans le livre des Cantiques des Cantiques. Ça ne vous dérange pas? Cantiques des Cantiques, ce sera un court verset, chapitre 2, et puis deux autres lectures tout à l'heure. Cantiques des Cantiques, chapitre 2, verset 14. « Ma colombe qui te tient dans les fentes du rocher, qui te cache dans les parois escarpées, fais-moi voir ta figure, fais-moi entendre ta voix, car ta voix est douce et ta figure est agréable. » Je vais arrêter là, on prendra deux autres lectures dans quelques instants. Il y a un mot qui est traduit de différentes manières, c'est le mot « escarpé ».« Qui te cache dans les parois escarpées ». Certaines traductions disent « caché au secret des escaliers ». Ou caché au plus secret des parois. Nous reviendrons sur ces traductions différentes dans quelques instants. Puis, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 14, Ézéchiel 14, verset 14, ou verset 13, « Fils de l'homme, si un pays péchait contre moi, en se livrant à l'infidélité, et si j'étendais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur, l'Éternel. » Dans le livre de Jérémie, au chapitre 15e, Jérémie, chapitre 15, et ce sera la dernière lecture, le verset premier, « L'Éternel me dit, quand Moïse et Samuel se présenteraient devant moi, je ne serai pas favorable à ce peuple. Amen. » Vous allez dire, qu'est-ce que cela peut bien signifier? J'aimerais parler, dans cette matinée, de l'intimité avec Dieu. Vous savez que des amis intimes, il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est bon dans le midi. Enfin, je ne parle pas du sud-ouest, hein, mais dans le sud-est, on est vite amis. On se rencontre, trois minutes après, on est des amis intimes, mais deux jours après, on est des ennemis. Ça fluctue très rapidement, ça change très très vite. Et on peut avoir des connaissances, nous pouvons avoir des camarades, mais des véritables amis. Ça se compte sur les doigts de la main. Et encore. Sinon, c'est que nous risquons d'être des gens superficiels. Vous savez, c'est comme les gens qui vous disent « Je vous fais une confidence, ne me répétez pas, hein, je veux que personne ne le sache. » Vous ne l'avez jamais répété, mais tout le monde le sait déjà. Je ne sais pas comment ça se fait. Alors, non, l'intimité. L'intimité, c'est ce qui marque une étroite union, une étroite amitié. L'intimité, c'est ce qui existe au plus profond de notre être intérieur. D'ailleurs, le mot intimité vient du mot intimus, latin. Si quelques-uns ont fait du latin, et le mot intimus c'est le superlatif de l'intérieur. J'aime ces mots superlatifs. Admettons, quand l'apôtre Paul dit « Je loue Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous », c'est un superlatif. Ça veut dire, non pas plus que tous en se comparant à chacun, mais ça veut dire plus que vous tous réunis. Vous comprenez la différence? Quand il dit « Je parle en langue plus que vous tous », c'est un superlatif. Eh bien, intimité, c'est un superlatif de ce qui est le plus secret à l'intérieur de notre vie. Donc, cette intimité, c'est ce qui est privé, caché, secret, comme on peut avoir un journal secret. Je ne sais pas si vous en avez un. Moi, je sais que ma femme, elle en a un, et je ne le connais pas. Je n'irai pas. C'est son journal secret avec le Seigneur. Eh bien, Dieu nous dit dans le livre des Cantiques des Cantiques que nous avons lu il y a quelques instants, ma colombe, vous savez, je ne vais pas faire l'image ni même la typologie, mais elle représente l'Église qui te tient cachée au secret des escaliers. Dans des anciens châteaux, il y avait des passes secrètes. Il y avait des escaliers secrets. Il y avait des endroits que la plupart du temps, les gens ne connaissaient pas, les serviteurs, mais que les maîtres des lieux connaissaient. Et pour des retrouvailles ou pour s'échapper, ils connaissaient ces endroits-là et ils pouvaient ainsi s'esquiver. Eh bien, il y a des escaliers secrets dans l'intimité de Dieu. Et vous remarquerez dans la parole de Dieu qu'il y a des gens à qui Dieu s'est adressé d'une manière particulière. Quand, admettons, il s'approche d'Abraham et lui dit « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Pourquoi ? Parce que il était l'ami de Dieu. Il ne le fera pas quelqu'un d'autre, mais il le fera Abraham. Et dans notre relation avec Dieu, est-ce qu'il y a cette intimité avec le Seigneur? Pas une intimité que les autres découvrent le dimanche quand nous sommes là, non. Une intimité qui nous est personnelle. Souvenez-vous de Jésus qui disait « Quand tu pries, entre dans ta chambre. » Et Dieu qui voit dans le secret, ça c'est l'intimité. Ce n'est pas des longues prières faites devant tout le monde, c'est des moments intimes avec Dieu. Et c'est cela qui plaît à Dieu. Alors, j'aimerais dire, dans ce que nous avons lu, il y a 5 hommes qui, à mon avis, ont gravi ces escaliers secrets avec Dieu. Le premier que nous découvrons, c'est Noé, puisque Dieu dit, si ces hommes se présentaient devant moi, Noé. Noé, c'est un homme qui a cherché Dieu à une époque où plus personne ne le cherchait. Puisque la Bible nous dit, les pensées des hommes se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Mais lui, il cherchait Dieu. Et pendant 100 ans de construction de l'arche, il n'a jamais cessé de chercher Dieu. Il n'a jamais oublié Dieu. Non seulement cela, mais il a montré sa foi en construisant l'arche 100 ans. C'est quand même plus qu'une vie pour toucher la retraite, ça. Hein? 100 ans de travail. 100 ans où il n'a cessé de dire aux autres que Dieu allait apporter son jugement sur la terre. 100 ans d'intimité avec Dieu. Il a été soumis à la moquerie par ses contemporains, à la fatigue. Je pourrais peut-être même dire au découragement. La Bible ne nous en parle pas, mais connaissant ce que nous sommes nous-mêmes des êtres humains, certainement que ces sentiments ont dû le traverser. Et pourtant, eh bien, avec foi, avec une crainte respectueuse, il s'est attaché à Dieu. Et il a dû prier pour les gens de son époque, de sa génération. Puisque Dieu fait allusion à lui, quand bien même ces hommes se présenteraient devant moi. Ça veut dire que pendant 100 ans, il a prié. Ça, les autres ne le savent pas, mais Dieu le sait. Et je signalerai qu'entre Noé le premier et le dernier que nous trouverons, c'est-à-dire Daniel, il y a 1800 ans d'écart. Eh bien, au bout de ces 1800 ans d'écart, Dieu dit, si ces hommes se présentaient devant moi, il ne peut pas les avoir oubliés. Il ne peut pas les avoir ignorés. Ils sont toujours présents à son esprit. Parce que c'était des hommes qui intercédaient, qui priaient, qui étaient dans l'intimité de Dieu. C'est donc le premier, Noé. Le deuxième, je parlerai de Job. Job est reconnu pour être cet homme intègre, droit. Cet homme qui craint Dieu, non seulement pour lui-même, mais également pour sa famille, prêt à demander pardon pour les siens. On voit que c'est un homme qui est uni à Dieu. Mais son intimité, elle est surtout démontrée par son amour inconditionnel pour Dieu. Quand je dis inconditionnel, il n'aime pas Dieu parce que Dieu le bénit. Il n'aime pas Dieu parce que Dieu est à ses petits soins, pardon. Il aime Dieu au sein de la tempête, de la tourmente, de la souffrance. Il aime Dieu. Et je dirais même, il démontre son amour inconditionnel au ciel et à l'enfer. Il le démontre à Satan. Parce que Satan avait bien dit, il t'aime parce que tu le bénis. Mais laisse-moi agir. Eh bien, Job montrera qu'il aime Dieu face à Satan et à l'enfer. Qui ouvre les yeux. Mais il le montrera face au ciel et aux anges qui sont là. Et ça, c'est l'amitié de Dieu, l'intimité avec Dieu. Bien sûr, il y a des choses qu'il apprendra, il y a des choses où il sera repris, mais en tout cas, eh bien, il est une bénédiction qu'il recevra et il nous montre que l'intimité, c'est pas s'attacher aux bénédictions, c'est s'attacher à celui qui donne la bénédiction. Vous voyez la nuance ? Est-ce que nous sommes intimes avec Dieu ? Quoi que ce soit que nous vivons, ou est-ce que nous sommes intimes avec Dieu parce qu'il nous bénit? Je le comprends au départ d'une vie chrétienne, mais plus nous avançons, plus cette intimité, elle dépend ni de ce que nous avons, ni de ce que nous possédons, ni de ce que nous recevons, mais elle dépend de sa présence. Et il n'y a pas longtemps, je parlais avec un pasteur sur le réveil. Et nous en arrivions à dire que la première chose, c'est l'Église qui n'est pas prête pour le réveil. Et dans l'Église, je me mets dedans, hein. Attention, je ne dis pas c'est l'Église. Moi, je fais partie de l'Église. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'un pasteur fait partie de l'Église, oui ou non? Il n'est pas au-dessus. L'Église n'est pas prête. Il manque cette intimité. Puisse le Seigneur nous apprendre à être comme Job, quels que soient les moments difficiles, à vivre cette intimité avec Dieu, cette communion. Et Dieu y fait allusion quand il parle. Il dit, si ces hommes se présentaient devant moi, ils ont marqué le cœur de Dieu. Ils ont marqué l'enfer, ils ont marqué le ciel, leur intimité avec Dieu. Troisième homme que nous trouvons, c'est Moïse. Dieu le connaissait par son nom, parce que le cœur de Moïse brûlait de voir Dieu. Bien sûr, il a été un instrument de bénédiction pour le peuple, pour les miracles dont nous lisons les détails dans le livre de l'Exode, etc. Mais pour lui, il regarde toute chose sur la terre comme un rien. Ce qu'il veut, c'est Dieu. Et il nous y est dit, à propos de Moïse, il regarda l'opprobre de Christ comme plus grande que la richesse d'Égypte. Il nous est dit de Moïse, quel amour, quelle patience il avait, parce qu'il ne voulait rien perdre de Dieu. Et quand Dieu lui parle, il dit, ce que je veux, c'est voir ta gloire, c'est voir ta face, au point où Dieu cédera. Il ne fera voir qu'une partie, parce que l'homme, dans son être humain, dans son état humain, ne peut pas voir la gloire de Dieu et vivre. Mais il lui en fera voir quand même quelque chose de façon qu'il puisse subsister, survivre. Il avait une soif de Dieu. C'est ce qui comptait. Pour lui, il ne cherchait pas l'approbation du peuple. Il ne cherchait pas quelque chose parmi les hommes. Ce qui l'intéressait, c'était Dieu, rien que Dieu, toujours Dieu. C'est pour ça que quand des siècles plus tard, Dieu parlera, il dira, même si ces hommes se présentent devant moi, et il parle de Moïse. Moïse qui aime Dieu. D'ailleurs, il sera repris, bien que passant par la mort, il sera repris, mais Dieu témoignant dira, quand je parle à un prophète, je parle par un songe, une vision à ce prophète. Mais il dira, à Moïse, je lui parle de bouche à bouche. Il y a un contact qui est là. Il y a une intimité entre Moïse et Dieu. Le quatrième personnage que nous découvrons, c'est Samuel. Samuel, je dirais, qui veut dire entendu par Dieu ou écouté par Dieu, sa conception même, sa naissance, c'est que Anne a été entendue par Dieu. Puisque sa mère ne pouvait pas avoir d'enfant, vous savez comment les choses se sont faites, eh bien, il apprend à grandir et à écouter Dieu. Et l'intimité, elle passe par l'écoute. Je ne fais que redire ce que me disait un missionnaire qui est maintenant avec le Seigneur. Hein. Il était à la maison, je l'avais reçu. Il était là. Moi, j'aimais qu'il parle, qu'il me raconte des choses vécues avec le Seigneur. Mais il y avait plusieurs personnes qui étaient là et ils n'avaient pas facilement la parole. Il y avait même, excusez-moi de dire cela, mais il y avait plusieurs dames qui étaient présentes. Et au bout d'un moment, il a dit, « Qu'est-ce que les Françaises sont bavardes ?» Textuellement, je vous dis ce qu'il a dit. Hein. Je n'ai rien, je n'ajoute rien, je ne reprends rien. Mais quelque part, je l'ai approuvé parce que, étant là à table, il avait des choses qu'il pouvait raconter. En l'occurrence, je peux dire qui c'est M. Cizeron. Donc, moi, j'aurais voulu qu'il me parle de beaucoup de choses qu'il avait vues faites par Dieu. Il n'a pas pu. C'est pas le seul. Je me souviens, là, c'était pas des dames. Donc, vous voyez, mesdames, j'aurais rien contre moi. J'étais un enfant et il y avait un frère qui était de passage, il mangeait dans la famille où j'étais élevé et il avait écrit des livres, il avait un ministère. Moi j'avais 14 ans, j'avais un tas de questions dans ma petite tête, vous remarquez qu'elle n'a pas grossi, mais enfin, j'avais un tas de questions à lui poser, il y avait un tas de choses que je voulais savoir sur Dieu, la parole de Dieu. Eh bien, je me souviens que tous autour de cette table, l'un a discuté de son travail, l'autre a discuté. On ne lui a pas laissé la parole pour quoi que ce soit. J'avais 14 ans. Ça m'a marqué, ça. L'intimité, ça passe par se mettre un spade sur la bouche et dire « Parle ». C'est pas ce que Samuel a dit ? Parle, ton serviteur, écoute. c'est ça l'intimité. Si vous m'invitez, je ne cherche pas à être invité à midi, je repars vite, hein, mais vous m'invitez et que je vienne à votre table et que pendant le repas qui peut durer, moi je ne sais pas, une heure et demie, vous n'entendez que Guy Galifot parler, vous êtes poli et gentil, vous dites rien. Mais peut-être vous direz, au moment où il sera parti. Parce que ce ne sera pas un dialogue, ce ne sera même pas un discours, ce ne sera même pas un entretien, ce sera un monologue. Et souvent, nous risquons d'être comme cela. Ce que je vous dis, je ne l'ai jamais dit encore, sinon peut-être en aparté à une ou deux personnes, mais ça va vous sembler bizarre. J'étais pasteur dans une église, je ne vous dirai pas laquelle. Le bureau était à côté de l'église et j'allais au bureau travailler, je méditais, etc. Et un matin, je suis rentré dans le bureau, mais je ne me suis pas mis derrière le bureau. Je me suis mis devant le bureau et puis j'ai dit, Seigneur, maintenant c'est toi qui es derrière le bureau, j'aimerais te parler. Je vais me dire, ça va la tête? Oui, vous inquiétez pas, j'ai pas besoin d'aller à l'hôpital Marchand, je sais pas s'il existe toujours d'ailleurs. Non, ça va très bien. Mais des fois, on a besoin de lui dire, parle, ton serviteur écoute. Et c'est ce qui a marqué le ministère de Samuel. D'ailleurs, à tel point, ce qu'on l'appelait, excusez-moi, le voyant, ce qui n'a rien à voir avec la voyance, vous l'avez compris, hein, mais on l'appelait le voyant parce qu'il savait tout, il connaissait le secret de Dieu, le cœur de Dieu. Il savait ce que Dieu pensait, ce que Dieu voulait, ce que Dieu désirait. Il y avait une intimité entre Samuel et Dieu, qui était au bénéfice du peuple d'ailleurs. Quand le peuple a demandé un roi, il a compris qu'il avait fait une bêtise. Et le peuple est allé trouver Samuel. Surtout, ne cesse jamais de prier pour nous. Et Samuel leur a dit, loin de moi de pécher en cessant de prier. Samuel était dans l'intimité de Dieu. Voilà pourquoi les siècles ont beau passer, mais Dieu fera allusion à ces hommes en disant, même s'ils se présentaient devant moi. C'est-à-dire que Dieu a écouté leur voix, Dieu a répondu, Dieu est intervenu, Dieu a exaucé, Dieu a honoré leur foi, Dieu s'est manifesté, Dieu a béni le peuple grâce à ces hommes-là, parce qu'il y avait une intimité entre Dieu et ces hommes en question. Samuel, il connaissait les secrets des escaliers qui montaient vers Dieu. J'aimerais également parler de ce dernier homme que la Bible mentionne, Daniel. Daniel avait probablement une quinzaine d'années quand il est transporté dans un pays étranger. On dirait c'est l'âge de l'adolescence. Je ne sais pas si on parlait d'adolescence à l'époque. Et c'est à cet âge-là qu'il prend la décision de vivre pour Dieu. 15 ans. Dans un des royaumes les plus démoniaques qui existent. Certains voudraient vivre dans une cité que de chrétiens. Eh bien, Daniel va être intime avec Dieu dans des circonstances les plus défavorables. À Babylone, c'était un repère de magiciens. C'était un pays étranger. Il avait perdu sa famille. Il devient eunuque. D'ailleurs, on le compte au nombre des astrologues et des magiciens. Daniel décide d'être avec Dieu, sans compromis. Et je dirais que sa vie personnelle c'est une vie étonnante. Il recherche Dieu au détriment de sa vie. Il recherche Dieu et il reste fidèle au-dessus de l'approbation des hommes, pour lui, rien ne l'affecte, rien ne le touche. Ce qui compte, c'est Dieu. Qu'on lui fasse des honneurs, qu'on le jette dans une fosse, rien ne l'ébranle. Il n'y a qu'une seule chose qui compte dans sa vie, Dieu. Qu'on l'interdise de prier, Dieu. Qu'on le sollicite, Dieu. Qu'on le menace, Dieu. Toujours Dieu. 15 ans. Et cela jusqu'à, ce n'est pas une passade, ce n'est pas 10 ans, jusqu'à sa vieillesse. Sa fidélité à Dieu, il l'a mis au-dessus de tout le reste. Le résultat, Nebuchadnezzar, Darius et bien d'autres personnes seront touchées. Les astrologues, ils auront leur vie sauve grâce à Daniel. On s'aperçoit qu'il médite, il est toujours là, devant Dieu. Il est humble, il prie. Et quand l'ange vient le saluer de la part de Dieu pour lui dire que sa prière a été exaucée, comment l'appelle-t-il ? Homme bien-aimé. Voilà comment Dieu considère l'intimité avec Daniel. Moi, je trouve ça tellement extraordinaire. Dieu qui dit à cet homme, « Tu es mon bien-aimé. » C'est plus « Mon bien-aimé est à moi, je suis à mon bien-aimé, mais je suis à mon bien-aimé, puisque c'est Dieu qui l'appelle comme ça, et il est à moi. » L'intimité. Bien, l'intimité, c'est le but principal de la prière. Notre prière, ce n'est pas simplement demander, 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 demander. Notre prière, c'est la communion, le contact avec Dieu. Est-ce que vous pensez que la relation entre un enfant et ses parents, c'est simplement demander, demander, demander ? Non. La communion d'un enfant avec ses parents, c'est tout. C'est demander, c'est remercier, c'est jouer ensemble, c'est jouir de sa présence. N'est-il pas vrai ? Eh bien, c'est ça. L'intimité avec Dieu, c'est dans sa présence. Être dans sa présence, c'est le secret du cœur de Dieu qui se dévoile dans la présence. Quelqu'un a dit, la plupart des chrétiens se repentent suffisamment pour être pardonnés, mais pas assez pour voir le royaume de Dieu. Et je crois que nos moments de communion avec Dieu, c'est des moments où nous sommes en relation et nous pouvons parler, même sans avoir besoin de demander une requête particulière, une bénédiction, parler avec Dieu. La Bible nous dit, l'apôtre Paul le souligne, nous sommes des ambassadeurs dans ce monde, des ambassadeurs de Dieu. Vous savez que l'endroit où habite l'ambassadeur, où il travaille, c'est considéré comme territoire du pays qu'il représente. Je dirais même, l'ambassadeur reçoit un salaire non pas du pays où il se trouve, mais du pays qu'il représente. Alors, ça dépend du pays que je représente, ça. Hein ? Eh bien, nous sommes des ambassadeurs du ciel. Ce qui veut dire que notre domicile, c'est le ciel. Notre salaire, je ne parle pas de ce que donne le patron, mais notre salaire spirituel, c'est le ciel. Tout nous vient du ciel. Notre communion est avec le ciel. Notre intimité, c'est le ciel. Seigneur, je veux réaliser alors quelle grâce chaque fois que je m'approche de toi. Quel privilège, quelle communion, quelle intimité. Et c'est dans cette intimité que parfois Dieu nous ouvre son cœur. En tout cas, c'est ce qu'il dit à Ézéchiel. Ézéchiel, qui est transporté en vision, qui découvre ce qui se passe dans son pays, et c'est-à-dire qui se passe au sein, soi-disant, du peuple de Dieu. Quand Ézéchiel est transporté, il n'en revient pas, et Dieu lui dit, si ces hommes, et je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure, 1800 ans d'écart entre le premier et le dernier, et Dieu dit, si ces hommes se présentent devant moi, Dieu ne peut pas les oublier. Ça a été des hommes dont le cœur était proche de Dieu. Une intimité s'était créée. Que Dieu nous aide à avoir cette intimité. Et s'il y a une telle intimité, je dirais ce n'est plus par la vue que nous marchons, mais par la vision. Et la vision, on pourrait en dire des choses. Vous vous souvenez d'Élisée? Quand il est chez lui, lui aussi, il était en harmonie avec Dieu. Et puis son serviteur ouvre les fenêtres. Et là, il voit l'armée des Syriens qui se trouve dispersée dans les rues pour capturer son maître. Élisée prie pour que Dieu lui donne la vision. Alors il ne voit plus l'armée, mais il voit l'armée de Dieu, les anges de Dieu. Vous vous souvenez aussi à quel moment Élisée prie de la mort. Joas, le roi, vient le trouver, parce qu'il sait que si Élisée s'en va, c'est un grand homme de Dieu, un grand prophète, et il est en bénédiction pour le peuple d'Israël. Alors il vient le trouver, est-ce qu'il y a une bénédiction pour lui? Et puis, Élisée, il ouvre la fenêtre, tire une flèche, et il tire, et ensuite prend une flèche et tape par terre. Vous savez qu'il tape que 3 coups. Et le roi Joas n'a aucune vision, lui. Il ouvre la fenêtre, il voit que dehors, il tire une flèche, il voit que la flèche, il voit que l'air, c'est tout ce qu'il voit. Quand il lui demande de taper par terre, il voit rien du tout. Pour lui, il n'y a pas de correspondance entre la flèche et puis les victoires que Dieu voudrait lui donner. Il n'a aucune vision, parce qu'il n'a aucune intimité avec Dieu. Mais Élisée est là, lui. Il dit, mais la flèche que tu as tirée, c'est une flèche de délivrance. Et la flèche avec laquelle tu as frappé par terre, ça pourrait être la flèche de toutes les victoires que tu pourrais remporter. Élisée ne voyait pas, mais il avait la vision. Et quand on est en intimité avec Dieu, il n'y a peut-être pas la vue, mais il y a une vision qui s'installe. Avoir la vision de Dieu. Cette vision, est-ce que nous l'avons? Est-ce que nous sommes prêts à voir comme Dieu voit, à voir ce que Dieu voit? Il y a quelques années de cela, nous avons un frère qui a eu un terrible accident. Connaît bien notre sœur, et personnellement, j'aimais beaucoup cette famille. De plus, lorsque j'ai été installé dans une certaine région, il est venu travailler, nous aider à refaire des pièces, salle de bain, etc. Et quand j'ai appris l'accident, nous avons été affectés, comme tous ceux qui le connaissaient, sa famille, et nous avons prié. Et ne serait-ce que par reconnaissance, déférence, j'étais dans la région parisienne, j'ai pris l'initiative de descendre pour visiter la famille, pour prier, pour que Dieu puisse relever ce bien-aimé, le guérir. Il était un Purpan. Mais je me souviens, avant de prendre le train, j'ai prié. Et je priais, et Dieu m'a parlé, par ce texte que je viens de vous lire, quand bien même ces hommes intercéderaient, je ne répondrai pas. Mais Seigneur, c'est ton plan de le prendre. Je l'ai dit au pasteur avec lequel avec lequel je collaborais dans la région parisienne, mais je suis descendu. Quand je suis arrivé, je me souviens de quelques personnes qui m'ont accueilli, qui m'ont dit, tu sais, si Dieu ne l'a pas repris au moment de l'accident, c'est qu'il va le guérir, il va le relever. Et moi, je savais ce que Dieu m'avait dit. Et je suis allé voir ce frère et j'ai prié, mais de tout mon cœur, comme nous pouvons prier, comme tout à l'heure vous l'avez fait. Hein, nous sommes des membres d'une même famille et nous prions les uns pour les autres. Et dans sa grâce, Dieu a permis que pendant quelques semaines, les organes vitaux qui étaient touchés se remettent en fonction, mais Dieu l'a repris. Je pourrais citer quelques cas semblables. Il y a une intimité avec Dieu où Dieu peut nous parler, Dieu peut dire, Dieu peut prévenir, Dieu peut avertir. Ça nous est arrivé. Que Dieu nous avertisse avant que cela ait lieu, qu'il allait reprendre quelqu'un. Ma femme pourrait vous le dire. Cette intimité avec Dieu. Ça nous est arrivé que Dieu nous dise, tu vas aller là-bas et je vais intervenir. Que Dieu soit béni. On voudrait que ça se passe toujours comme ça. Ça, c'est Dieu seul qui est souverain. Cette intimité. Cette recherche profonde de Dieu. Ma colombe qui te tient sur les escaliers secrets. Est-ce que nous avons envie de monter les escaliers de l'intimité plus profonde avec Dieu? Personne ne peut le faire à notre place. Ce n'est pas un mouvement de groupe. C'est quelque chose de personnel. Comme tous, c'est notre nature. Il y a des moments où on a envie. Puis il y a d'autres moments, on a moins envie. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai été profondément marqué par un homme de Dieu, un homme de l'esprit. C'est ton grand-père. Je me souviens d'expériences vécues avec lui. Je me souviens de cultes qui ont commencé 9h30 à 3h. On a arrêté pour faire l'évangélisation. Je me souviens de choses. Un homme qui savait écouter le Saint-Esprit. Et il m'en a parlé quelquefois. J'aimerais vivre ces choses intimes avec Dieu. Que le Seigneur nous aide. Et ce monde a besoin que des gens soient intimes avec Dieu, pour que nous puissions leur parler, leur dire, leur révéler, intercéder, et que Dieu se manifeste. Bientôt, bientôt, nous allons aller avec lui. Mais puissent les derniers moments, les dernières années que Dieu nous permet d'évangéliser, que Dieu nous permet encore d'apporter sa parole, car les temps se précisent, puisse Dieu nous permettre d'être de ces hommes qui se tiennent dans les escaliers secrets de Dieu pour dire aux autres que Dieu les aime, que Dieu veut les sauver et qu'ils puissent se servir de chacun d'entre nous. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Marchons en intimité avec le Seigneur pour le monde, pour nos familles, celles qui ne connaissent pas encore le Seigneur. À Dieu soit toute la gloire. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens comme une présence de Dieu qui veut se manifester au milieu de nous, qu'elle le fasse librement. Que Dieu puisse prendre nos cœurs ce matin, les saisir à la gloire de son nom. Peut-être je vais demander quelque chose que vous n'avez pas l'habitude. Ça m'est égal. Moi, vous savez, je n'ai rien à perdre. Je suis vieux. Ce que les gens pensent de moi, ça m'est complètement égal. Je n'ai plus que Dieu dans mon cœur, Dieu dans ma vie. Je ne veux voir que Dieu. Isabelle, que voulez-vous venir, s'il vous plaît? Nous allons prier le Seigneur. Nous allons nous lever tous en blanc. Je vais demander à Isabelle de venir prier. Je ne te dérange pas, Isabelle. Ça ne fait rien, même si je te dérange. Dieu est avec toi. Jésus, on peut se lever, on va tous prier. Nous voulons tous entrer dans cette intimité du Seigneur. Oh, Jésus, je te laisse.
Notre Père, combien nous voulons te bénir. Et c'est prosterné devant le trône que nous nous approchons de toi, au travers du sang de l'agneau. Combien nous voulons te voir, Seigneur. Combien nous voulons être prosternés devant toi et recevoir de ta part, entendre ta voix. Oui, Seigneur, combien nous voulons mettre nos vies entre tes mains, afin que tu les diriges par ton esprit, afin que nous allions là où tu le veux, afin que nous fassions ce que tu veux. Seigneur, oui, c'est là le désir profond de nos cœurs, de nos êtres entiers, c'est d'être soumis à ton esprit, c'est de savoir entendre ta voix, de savoir la reconnaître et de savoir vraiment l'écouter pour la mettre en pratique. Seigneur, nous t'offrons nos vies. Nous voulons tous nous reconsacrer à nouveau, prendre un nouveau départ avec toi et aller de l'avant. Parce que nous désirons que, oui, dans ces derniers temps de la fin, nous désirons vraiment œuvrer pour ton royaume sur cette terre. Nous savons que les temps sont courts, que les temps sont difficiles, mais nous savons que tant que nous aurons la vie, nous pourrons agir et faire pour toi dans ce monde. C'est pour cela que nous voulons nous reconsacrer tout à nouveau, avoir un zèle nouveau pour ton service, afin qu'un grand nombre d'âmes soient sauvées. C'est là le désir de nos cœurs, c'est que nous soyons des témoins dans nos maisons, dans nos foyers, auprès de nos enfants, dans le travail que tu nous as confié à chacun, auprès de tous ceux qui nous entourent. Seigneur, nous voulons être des témoins qui apporteront la bonne odeur de Christ. Oui, Seigneur, tu sens de nos cœurs, tu sens de nos vies, et nous la répandons à tes pieds pour la gloire et l'honneur de ton nom. Merci, Père.